Alexandre Brault, bonjour.
Salut.
Salut Alexandre.
Il est éducateur spécialisé, centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Il est situé où, ce centre-là?
Bien, il est situé en Montérégie-Ouest. Dans le fond, on dessert toute l'ouest de la Montérégie au complet. Ça s'appelle le SRSOR, mais maintenant, il fait partie du 6 de l'Ouest.
Bravo.
Puis l'ouest de la Montérégie, c'est quoi? C'est Valleyfield, Suroît?
C'est Valleyfield, Suroît. On a aussi Vaudreuil. On va jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. On dessert aussi Chambly, un peu vers les cantons de l'Est aussi. Fait qu'on dessert toute cette belle région-là avec Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac, Delsune, Châteauguay.
Geneviève, je vous laisse. Je me suis tellement immiscée dans l'autre entrevue que je
vous
tais.
Pardonne, Monsieur Fortin.
Parce que le fait que vous étiez animatrice en même temps, ça. Non, mais animatrice des groupes féminins?
Oui.
Il fallait.
Oui, c'est bien correct. Mais en fait, on a invité Alexandre pour parler du défi Pérou auquel il a participé en 2008 avec Monsieur Jean-François Martin. Moi, j'ai vu le film plusieurs fois, évidemment. Je voulais savoir comment tu as eu l'idée de dire, moi, je vais postuler, je veux faire ce projet-là avant que ça soit fait. Là. C'était sur papier, Jean-François en a parlé dans ses cours, mais ça a été quoi le coup de foudre? Pourquoi tu as voulu participer à ça?
Bien, juste avant, tu étais qui dans le film? Là?
J'étais celui avec la petite casquette.
Non, mais qu'est-ce que tu as dit?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Pour une personne aveugle, on s'en...
Dans le fond, qu'est-ce que j'ai dit?
C'est toi que son père était décédé il n'y a pas si longtemps?
Non, pas du tout. Ça, c'était Xavier. Moi, j'étais celui qui avait vécu des problèmes à l'école et que ça avait été difficile toute sa vie.
Avec le... Oh, mon Dieu, quelle histoire! OK, continue, je suis situé.
Désolé.
Non, il fallait que je le sache. Vas-y, Alex.
Oui, c'était... Répétez la question, s'il vous plaît.
Ah oui, c'était une longue question en plus. Je suis désolée.
Pourquoi tu es allé dans ce voyage-là?
Ben,
pourquoi je suis allé dans ce voyage-là? Ben, dans le fond, c'était beaucoup au niveau de l'opportunité. Puis quand je suis rentré dans la technique, c'est qu'il y avait seulement que l'opportunité de faire un stage à l'étranger, seulement quand au troisième stage. Mm-hmm. Et ça devenait quand même assez coûteux de pouvoir le faire. Fait qu'en ayant un projet que Jean-François nous présentait carrément un plateau sur table et qu'on avait juste à postuler et espérer être pris, et après ça, faire du financement pour pouvoir y arriver. Déjà là, au départ, c'était comme « Ah, il y a l'opportunité de pouvoir le faire, vu que je n'avais pas les moyens de faire un stage 3 à l'étranger. » Ça, c'était la première optique qui a fait « Ah, je vais y aller. » Et après ça, en voyant que c'était avec les personnes qui avaient une trisomie 21, qui est un groupe de personnes que j'adore dans la vie et que je vais à chaque année à la course de la trisomie 21 faite par le regroupement. Mm-hmm. Et je connaissais aussi déjà Marco au cégep.
Parce que Marco était dans vos cours,
Marco était déjà dans mes cours au cégep à ce moment-là. Je le côtoyais dans le cours de PDSB.
Et on comprend que Marco est un étudiant qui a la trisomie.
Exactement, okay. Exactement. Fait que c'est pas mal ça qui me situait au départ. Et je me suis lancé tête baissée en me disant, je perds à rien d'essayer d'être pris pour le projet. Et vu le nombre de personnes qui étaient, il a quand même fallu jouer un peu du coude pour pouvoir s'arranger jusqu'à la fin.
Vous étiez combien au départ qui étaient intéressés, Jean-François?
Il était pas loin de 22-23 étudiants qu'on devait sélectionner, 6 étudiants seulement, avec 2 remplaçants.
OK.
Ouais. Il y avait du monde.
Puis t'as été sélectionné tout de suite, t'étais pas un remplaçant, t'étais dans les
Exactement, j'ai été un chanceux qui a été sélectionné tout de suite et non pas dans les remplaçants, parce que tous ceux qui ont été sélectionnés tout de suite ont été jusqu'au bout.
Oui.
Je peux admettre que les remplaçants ont dû espérer un moment donné qu'il y en a un ou une qui lâche.
Oui, ça aurait été plus facile pour eux autres, mais dommage pour vous. Puis de cette expérience-là, quels sont les souvenirs les plus marquants que...
Le souvenir le plus marquant, c'est sûr, on le voit dans le film, c'est quand je l'explique, c'est que c'est grâce à Marco que j'ai réussi à passer au travers de ce voyage-là en tant que tel. Ma plus grande crainte dans la vie, c'est vraiment l'inconnu et les gens, et c'est d'aller au-devant des gens. Là, on se retrouvait dans un village où ce qui parlait même pas espagnol, c'était Quichua, et j'arrivais pas à communiquer, et là, je me suis mis à paniquer, carrément. Mm-hmm. Et c'est Marco lui-même, le soir, en le bordant, qui m'a carrément dit « Fais-toi-en pas, ça va bien aller. » Et je me suis fié à lui pour le reste du voyage, quand que tout le long d'avant, c'était lui qui s'était fié à moi.
Oui, le rôle s'était changé.
C'était inversé.
On ne s'attendait pas à ça, nous autres. Et il nous a fait peur, cet Alexandre-là, là-bas, parce que moi, je pense que s'il avait eu son billet d'avion entre les mains, il aurait
foutu le camp. Je me poussais.
Et dans le film, c'est beau à voir. Ouais. Il y a une scène, entre autres, où Marco tourne autour de lui parce qu'on embarque dans l'autobus pour aller justement dans les familles. Et Alexandre est complètement dévasté. Et Marco tourne autour de lui. Là, et par son non-verbal, on le voit très bien qu'il est en train de dire à Alexandre, « T'es pas tout seul, là.
Mm-hmm.
Je suis là, moi aussi. » Et cette scène-là, moi, c'était comme « Wow! » On voit tout là-dedans.
Oui, parce que dans le film, on voit pas la scène de la nuit où ce que moi, Marco, on a notre discussion parce qu'on n'était pas filmé à ce moment-là. Et vraiment, c'était très beau parce que Marco parle pas beaucoup non plus. Marco, c'est quelqu'un qui parle très peu. Et vraiment, ce soir-là, c'est venu spontanément de sa part. Je l'ai bordé, puis j'ai voulu faire en sorte qu'il ne s'inquiète pas. J'ai dit, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Puis à ce moment-là, ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit, non, toi, fais-toi-en pas, ça va très bien aller.
Vous étiez tous en éducation spécialisée.
Exactement.
Il y en a combien qui ont décidé de rester en déficience intellectuelle?
Je crois que je suis le seul.
Il y a eu Julie pendant un certain temps, si je ne me trompe pas, mais elle n'a pas persisté. Fait qu'il est le seul, effectivement, qui est encore aujourd'hui dans le domaine de la déficience intellectuelle. Et c'est celui qu'on n'aurait jamais pensé qu'il aurait été. Quand on regardait ça en gros, là, son nom, si tu m'avais demandé à ce moment-là qui tu penses va rester dans le domaine, je n'aurais pas sorti Alexandre.
Et est-ce que vous croyez que c'est à cause du défi Pierrot que vous avez persisté?
Ça l'a aidé beaucoup, mais c'est plutôt en revisitant un peu mon passé, en me rendant compte que j'ai toujours été intrigué et attiré par les personnes qui étaient délaissées dans notre société. Mm-hmm. Et souvent, c'est la personne qui a une déficience intellectuelle ou qui a un handicap quelconque. J'allais toujours vers ces personnes-là pour essayer de les intégrer dans des groupes d'amis, dans des jeux, dans des activités, vu que moi-même, à l'école, j'avais plus de difficultés et que personne vraiment voulait jouer avec moi. Fait que c'était plus facile, inné, et je me suis rendu compte avec les années que j'aimais mieux cette clientèle-là que me retrouver, mettons, qu'une clientèle trouble de comportement qui viendrait peut-être plus toucher mes vraies problématiques à moi que j'ai vécu dans la vie.
Puis est-ce que avant de partir, vous étiez quand même Alexandre, et au retour, vous étiez quand même Alexandre, mais est-ce qu'il y a eu un cheminement dans le défi Pierrot? Est-ce que vous trouvez que vous êtes la même personne d'avant le défi?
Pas du tout. Ça a complètement changé ma vie. Au niveau émotionnel, vraiment, je suis plus à l'écoute de mes émotions. J'ai compris qu'il fallait aussi que je les exprime si je voulais être capable de poursuivre. Et en ayant fait confiance à d'autres, qu'on se dit on ne leur ferait pas confiance et que ça a très bien fonctionné. Et il y a un beau message aussi qu'on entend dans le film quand que Jean-François nous dit de plus s'en faire et que de plus non plus laisser personne nous dire qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose. Je l'ai réalisé complètement là-bas parce qu'on a réussi à le faire, pas tout seul, parce que ça n'avait pas été de Marco, je n'aurais pas été jusqu'au bout.
Wow. Nous autres, on l'a vu. Là. On a vu une différence totale d'Alexandre avant et d'Alexandre vers la fin du projet lorsqu'on était encore au Pérou. Là. C'était pas le même homme, là. Il était complètement transformé. Et encore une fois, dans le film, on le voit, cette transformation, où à la toute fin, tu es avec le jeune garçon dans ta famille, puis on voit le lien qui est tissé, on voit l'assurance qu'Alexandre a, qu'il avait beaucoup moins au début ou dans le milieu du projet, et que là, c'était une image là, totalement différente. C'est celui, je pense, qui nous a démontré le plus un changement.
Okay.
Ben, ça m'a appris à relever les épaules puis à bomber le torse puis de se dire, garde, on y va, on peut se planter, mais rien ne nous empêche d'y aller puis de réessayer jusqu'à temps qu'on réussisse à arriver à nos fins si ça respecte tout le monde et que tout le monde est bien là-dedans.
Mais il y en a sûrement qui vont se dire, oui, mais c'est 18 jours ou 16 jours ou, 10, ou 20 jours dans une vie, à quel point ça peut être aussi marquant dans le développement d'une personne?
Ben, premièrement, j'avais jamais été à l'extérieur du pays. Je parle pas vraiment anglais, je parlais pas non plus espagnol. Fait que j'étais lancé carrément dans la gueule du loup en n'ayant aucune connaissance de rien, à part que on s'en est fait.
C'est toi qui s'est lancé.
C'est moi qui s'est lancé.
T'as eu ce courage-là quand même.
Oui, tout à fait, mais sans vraiment avoir conscience dans qu'est-ce que je me lançais en tant que tel. Fait qu'au début, on suivait le groupe, on suivait aussi notre guide qui nous expliquait comment ça se passait là-bas. Fait que c'était facile, on avait un guide puis le kit. C'était vraiment le moment où on se retrouvait dans les familles, que là, on était laissé à nous-mêmes, mais qu'il fallait être capable de s'en sortir. Et comme j'expliquais tantôt, si Marco m'avait pas dit qu'on allait y arriver, j'aurais abandonné et je serais parti déjà à ce moment-là. Grâce à Marco, je me suis donné la chance de le faire et ça a vraiment fait toute une différence que aujourd'hui j'ose d'y aller. Je m'implique au niveau syndical, j'essaie de revendiquer ce qu'on a besoin en tant que tel, vu que le secteur public, ce qui se passe en ce moment. Et je suis toujours présent pour les causes de la trisomie, je suis toujours présent pour des causes avec l'autisme. Il y a une course aussi dans mon coin qui est la course de la phrasme que je fais chaque année. Cette année, j'ai pas pu courir, mais j'étais là comme bénévole à la place.
Et êtes-vous encore en contact avec Marco? Est-ce que vous le voyez à l'occasion?
Marco, j'ai perdu contact avec lui lors des 2-3 dernières années. Il était un petit peu malade, fait qu'on a pu moins le voir. Je le voyais souvent à la course de la trisomie 21. Mais je pense à lui régulièrement, Marco. Et tantôt, Jean-François me fait un beau cadeau. Il me dit qu'il allait me donner les coordonnées, que je puisse recommuniquer avec lui. Comme ça, je vais pouvoir sûrement aller le voir d'ici la fin de mon congé de paternité.
C'est ce que je voulais t'offrir, mais bon, il y a quelqu'un qui a été de vitesse. Parfait. Et votre séjour au Pérou, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises puis que vous appliquez au quotidien dans votre travail?
L'écoute de mes émotions, le fait aussi de faire confiance à l'autre, de lui laisser la chance. Aujourd'hui, je travaille présentement en autisme 0-5 ans, qui est un programme, le programme ICI, qu'on appelle oui. intervention comportementale intensive. Et on a souvent tendance à surcharger les enfants et de leur apprendre des acquis qui vont être faciles pour eux, mais en même temps, il faut leur laisser la chance d'expérimenter, laisser la chance d'aller voir. Et on le voit beaucoup au niveau de la nourriture, au niveau du jeu et au niveau social surtout.
Merci beaucoup.
Et moi, je pense que la patience aussi.
Oui, oui, bien, j'ai développé une très grande patience. J'ai développé une très grande patience.
Mais bravo. Autant pour le cheminement que pour le projet. Et soyez persévérants avec l'austérité, l'aspect syndical et le nouveau-né.
Oui, bien, merci, merci. Félicitations.
Qui est un des beaux cadeaux de la vie. Alexandre Brault, donc, qu'on recevait, un des participants du Défi Pérou, mais il est maintenant aujourd'hui éducateur spécialisé.